Europe 1. Comme chaque dimanche, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Mathieu Molimard.
Bonjour Monsieur Cohen.
Chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi votre métier? Pharmacologue, ça consiste en quoi?
Un pharmacologue, c'est pas bien connu, mais c'est une vraie spécialité. En fait, on a fait de la médecine ou de la pharmacie. Certains ont fait vétérinaire et d'autres des scientifiques. Et en plus, on a fait une thèse de science, généralement, de pharmacologie. Donc, grosso modo, il y a une vingtaine d'inscriptions en fac. Je vous rassure, j'ai fait qu'en 15 ans. Donc, c'est pas si long que ça. Mais, on est des spécialistes du médicament qui va de la naissance et l'accouchement du médicament. On découvre des nouvelles molécules et leurs mécanismes dans les méthodes expérimentales. Puis on développe ça chez l'homme dans les différentes phases du développement du médicament. On participe à l'autorisation de mise sur le marché. On surveille le médicament après chez les patients. Et puis à la fin, on suit le médicament jusqu'à sa mort, soit parce que l'industriel l'a retiré, parce qu'il n'y a plus de bénéfice, soit parce que nous on le tue, parce qu'il est plus dangereux que bénéfique. Donc en fait, on est les médecins du médicament, de l'accouchement à la mort.
Et il se trouve que vous êtes pharmacologue et pneumologue. Alors,
souvent on a une double formation, voilà, exactement.
Oui. Alors prenons une maladie virale inconnue qui fait un grand nombre de victimes, un petit nombre en pourcentage, mais un grand nombre en valeur absolue. Il y a une urgence sanitaire à trouver des traitements, pas le temps d'inventer une nouvelle molécule, donc on regarde ce qui existe, on ouvre l'armoire à pharmacie. Comment on fait le tri?
C'est ça. La problématique, c'est de faire le tri. Quand on développe un médicament, faut être rigoureux, faut pas perdre de temps. La vitesse, c'est le contraire de la précipitation. Il faut d'abord regarder ce que l'on a dans la bibliographie. Est-ce qu'on sait ce que faisait ce médicament? Alors si on parle, ce qui nous intéresse, c'est l'hydroxychloroquine, là. Mais qu'est-ce qu'on sait sur l'hydroxychloroquine? On sait que ça marche in vitro dans beaucoup de virus, la grippe, le chikungunya, le SARS-CoV-1, la dengue, le VIH, enfin j'en passe. Par contre, il y a un problème, c'est que chaque fois qu'on est passé in vivo, ça n'a jamais marché. Et alors, ça n'a jamais marché, mais pire, ça a aggravé des patients, notamment les patients de chikungunya sont aggravés, les patients VIH, ça a augmenté la croissance du virus chez l'homme. Et ça a joué sur les CD4. Donc ça, c'est pas forcément parce qu'on a une action in vivo qu'on a une action in vitro, qu'on a une action in vivo. Et le problématique de l'hydroxychloroquine, c'est que non seulement une action qui est possiblement antivirale, mais elle a une action qui module l'immunité. Et on sait pas trop bien ce que va faire si on diminue ou on augmente l'immunité, ce que ça va faire sur la réaction inflammatoire dont parlait le précédent auditeur.
Pour être plus précis, Mathieu Molimard, j'ai lu certains de vos articles. Pour résumer, vous expliquez que c'est un produit qui se diffuse assez lentement dans l'organisme, alors qu'il faudrait une dose massive pour tuer le virus, j'ai bien compris?
Exactement ça. En fait, je vais pas rentrer dans des circonstances de la pharmacocinétique de haute volée, restons simples. C'est un médicament qui est effectivement rentre très doucement dans l'organisme. Il faut grosso modo plus d'un mois, il a un mois de demi-vie, donc il faut 6 mois pour être vraiment au plateau d'efficacité, ce qui explique que dans le lupus, on n'a pas vraiment l'effet avant un mois. C'est un des éléments qui explique cela. Il faudrait pouvoir
le
mettre
lupus
des doses très fortes.
Je précise, le lupus traité au long cours par l'hydroxychloroquine.
L'hydroxychloroquine, et dans cette maladie, l'hydroxychloroquine fonctionne, est efficace et a beaucoup moins de risques que dans le Covid. J'insiste là-dessus, le rapport bénéfice-risque de ce que l'on a dans le lupus avec l'hydroxychloroquine n'est absolument pas remis en cause par ce que l'on observe dans le Covid, où le rapport bénéfice-risque, là, par contre, est plutôt défavorable. Alors, pour en revenir à cette diffusion, ça met du temps à arriver dans l'organisme. Et le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que si on donnait une très forte dose immédiatement, en quelques jours, parce qu'on veut que ça marche vite, si on veut une action antivirale, on tuerait le patient. Donc, la marge de sécurité qu'on a entre la dose que l'on trouve in vitro et la dose qu'on voudrait avoir in vivo pour avoir l'effet, fait que ça marche pas. En fait, quand on développe un médicament, donc on regarde ce qu'il y a in vitro, ensuite on fait normalement des modèles animaux, là en disant qu'on n'a pas le temps, on va ensuite passer chez l'homme. On va regarder ce que donne ce médicament chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la phase 1, première administration du médicament à l'homme. Et là, on va regarder quelle est la dose maximale tolérée et les concentrations qui sont en rapport avec ça. Et là, quand on regarde les concentrations, la dose maximale tolérée, elle est elle est pas très loin de la dose que l'on a in vitro. Donc ça pose déjà un vrai problème. On a un feu orange chaque fois qu'on choisit des médicaments et qu'on les développe. En fait, on fonctionne par des go or no go. Il faut s'arrêter le plus vite possible parce qu'on a des dizaines de médicaments qui peuvent être donnés et efficaces potentiellement dans le chikungunya, dans le Covid. Et il faut qu'on fasse le tri. Il faut qu'on fasse le tri le plus vite possible parce que si on pousse le plus loin un médicament qui ne marche pas, on a gaspillé de l'argent, on a gaspillé des ressources, on a fait mettre en danger des patients alors qu'il y aurait d'autres médicaments qui peuvent marcher. Donc c'est vraiment un travail de tri, comme les militaires font du tri, on va prendre celui-là, il va marcher, on le pousse, celui-là va pas marcher, on s'arrête. Donc là, sur la phase 1, on a un feu orange bien mûr, si vous me permettez, c'est-à-dire que les concentrations in vitro et les concentrations in vivo, on n'y croit pas beaucoup, surtout avec l'antécédent que ça n'a jamais marché sur aucun virus. Normalement, après, on passe dans un modèle qu'on appelle la phase 2, où on essaye de donner le médicament à des patients contre un placebo, on pourra revenir sur l'intérêt du tirage au sort, pour regarder sur un critère vite, facilement mesurable, qui va être, par exemple, dans ce cas-là, la décroissance du virus dans le nez. Et là, on a deux études qui ont été réalisées, tirées au sort, randomisées, une de 30 patients, une de 150 patients, ces deux études sont négatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décroissance différente entre le groupe qui a reçu par tirage au sort l'hydroxychloroquine et le groupe qui n'a pas reçu l'hydroxychloroquine. Là, c'est un feu rouge vif. Normalement, on s'arrête, on dit stop, on passe à d'autres molécules, on a des dizaines d'autres qu'il faut tester, il faut se dépêcher. Et il faut pas faire 150 études comme on est en train de faire actuellement, ça dépense des millions d'euros. On perd du temps, on aurait dû savoir il y a déjà un mois si ça marchait ou pas. Et on aurait dû le savoir parce qu'on appelle la phase 3. Et la phase 3, c'est qu'on va donner le médicament ou un placebo ou le meilleur des soins à côté. C'est-à-dire on va tirer au sort un groupe de patients qui va recevoir le médicament et un groupe qui va pas le recevoir, qui peut recevoir autre chose. Ça me gêne pas de donner, par exemple, de la vitamine C. Pourquoi pas? C'est ce qu'on a fait dans une étude à Bordeaux, ça s'appelle l'étude Coverage. Et on regarde, est-ce que ce médicament, dans ces circonstances, à des patients, va changer des critères pertinents, qui sont la seule chose qui nous intéresse à la fin. C'est, est-ce que ça va diminuer des hospitalisations? Est-ce que ça va diminuer des réanimations? Est-ce que ça va diminuer des décès? Deux choses une, si c'est positif, on va pouvoir traiter tous les patients, on aura convaincu la communauté scientifique, on ira tous. Si c'est négatif, on arrête les frais, on est déjà allé trop loin, on cherche une autre piste. Et pour cette étude-là, de phase 3 n'a pas été faite. On a grillé les étapes de sécurité élémentaire en levant l'interdiction. Tant que le médicament n'a pas prouvé son bénéfice et son risque, il est interdit de le mettre sur le marché parce que tous les médicaments sont des toxiques. Il faut le rappeler, il n'y a pas de médicaments sans risque. Les médicaments, c'est pas des bonbons, c'est que des toxiques. C'est parfois utile, des fois ça sauve des vies, mais il faut pas oublier que c'est toujours des toxiques. Donc là, il y a une interdiction à utiliser tant qu'on n'a pas démontré le bénéfice et le risque. Cette interdiction n'a pas été levée, mais comme il était déjà sur le marché pour une autre indication, elle a été contournée pour une utilisation large, non justifiée, sans groupe contrôle, si bien qu'on a des études maintenant qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, en fonction des biais de sélection. Tantôt, j'ai mis plus des patients qui vont plutôt bien avec mon traitement, tantôt j'en mets qui vont moins bien avec ce traitement, et je vais trouver que tantôt l'hydroxychloroquine, c'est formidable, et tantôt ça tue les gens. En fait, ça a été utilisé par plus de 3000 personnes, pour pas le citer, on aurait déjà eu la réponse début avril si on avait dit, on vous donne 500 patients hydroxychloroquine, 500 patients de la vitamine C, pour reprendre cet exemple. Et on n'a pas la réponse, ça n'a pas été fait, donc on est dans la difficulté et il faut revenir aux bases.
Juste un mot, Mathieu Molimar, sur le risque, quand Didier Raoult affirme, il l'a encore répété cette semaine, que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, l'anti-inflammatoire qu'il utilise, sont les deux médicaments les moins dangereux du monde.
On dit fake news, mais je pense qu'il y a un mot dans Provence qu'on utilise qui s'appelle des fadaises. C'est un terme français qui est beaucoup plus joli. Les moins dangereux du monde, je connais pas le médicament le moins dangereux du monde parce que tous les médicaments ont des risques. En l'occurrence, le rapport bénéfice-risque de ce produit est très bon dans le lupus, mais c'est le rapport bénéfice-risque dépend de chaque indication. Le rapport bénéfice-risque, en fait, c'est lié au fait qu'on ait un bénéfice et le risque va varier en fonction du terrain, en fonction de à qui on va donner le traitement. Dans le cas du Covid, on a associé à cette maladie des baisses du potassium. Ces baisses du potassium sont associées à un risque de troubles du rythme plus important, une sensibilité à avoir des, je vais prendre un gros mot, allongements de QT qui sont en fait cette anomalie que l'on trouve du rythme cardiaque qui va arriver à une tachycardie ventriculaire et un arrêt cardiaque. Donc ça, c'est lié à l'hypokaliémie. En plus, dans le Covid, on a des atteintes, pas uniquement au niveau pulmonaire, mais au niveau cardiaque et une maladie inflammatoire, on le voit bien maintenant. Et cette atteinte cardiaque favorise ce trouble du rythme. Et puis en plus, si on ajoute de l'azithromycine, qui est trois fois plus toxique en termes de QT que l'amoxicilline que tout le monde connaît, eh bien à ce moment-là, on a un effet qui s'ajoute par une interaction entre ces médicaments. Tant et si bien qu'il y a une étude qui a été faite au Brésil qui a été arrêtée pour cause de trouble du rythme cardiaque, que dans les essais que l'on voit, et c'est le seul avantage de ces essais qui sont mal faits, c'est que on voit qu'il y a grosso modo 10% des patients qui ont une allongement du QT qui est anormalement élevé. Et en pharmacovigilance, on n'a jamais vu ça. En moins d'un mois, on a eu 7 morts, plus de 130 déclarations d'événements indésirables, graves, plus qu'on n'a jamais eu dans tous les 30 ans d'historique de l'hydroxychloroquine. Donc moi, je veux bien qu'on dise, dans mes braves gens, prenez ce traitement qui va vous guérir, je vous assure que ça marche. Pour l'instant, j'ai pas le début du commencement d'une preuve que c'est efficace. Et ça risque rien, dans mes braves gens, ben là, c'est encore, je dis, c'est exactement le contraire, on a des arrêts bien définis. On peut estimer, grosso modo, aujourd'hui, qu'on a au minimum entre 50 et 100 morts par an, par hydroxychloroquine en France depuis l'instauration de ce traitement dans le Covid-19.
Avant de vous remercier Mathieu Molimar, je signale deux références pour ceux qui voudraient en savoir plus. Le papier d'Olivier Hertel avec vos explications sur le site de Science et Avenir. Selon la pharmacocinétique, le traitement à l'hydroxychloroquine ne peut pas marcher. Et puis le site de la Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique, SFPT, dont vous êtes l'un des dirigeants, avec des dizaines de questions et de réponses sur les médicaments et le Covid. Merci professeur Mathieu Molimar.